Amen. Voilà, on va rentrer sans plus tarder dans le message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alors je dis ça parce que, vous savez, il y a des moments où on se place devant le Seigneur, je l'ai dit tout à l'heure, pour la conduite des chants ou pour toute autre chose. Mais voilà, en tant que pasteur, prédicateur de la parole, on se place devant le Seigneur et je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Et assez tôt est venue une pensée dans mon cœur et des fois on se dit, bon voilà, c'est ça, c'est la pensée de Dieu. Et j'en étais pleinement persuadé. Et puis, vous savez, il y a la chair qui est là et il y a un petit combat. Est-ce que c'est à propos? Est-ce que c'est réellement cette parole-là? Et ça m'a été confirmé durant toutes les réunions de cette semaine. Ça m'a été confirmé plusieurs fois. J'ai plusieurs fois essayé, en fait je vous le dis comme ça, je vous ouvre mon cœur, j'ai plusieurs fois essayé de ne pas prêcher ce message-là. Et puis le Saint-Esprit a mis, voilà, on va dire, cette pression dans la douceur, dire non, c'est ce message-là. Alors je vais vous l'apporter et que chacun le reçoive de la part du Seigneur. Je fais cette introduction pour vous dire que Dieu nous aime, c'est une réalité, et comme il nous aime, il nous avertit qu'il y a des dangers. Il y a un ennemi qui est là, qui a juré notre perte. Et il opère d'une certaine manière, d'une certaine façon. Et on va lire ensemble le titre que j'ai mis à ce partage, c'est « Attention, danger », et puis entre parenthèses, l'apparence de la piété. On va lire ensemble 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1er. Ce verset, régulièrement, il revient à mon esprit, c'est ce passage en fait, il revient régulièrement à mon esprit pour avertir le peuple. On sait que la parole de Dieu, elle est là pour nous encourager, elle est là pour couper, pour nous exhorter, mais également pour nous reprendre. Reprendre quand on est dans une certaine situation et il y a besoin absolument l'urgence de la situation pour rétablir toute chose. Et le Seigneur, il le fait toujours avec douceur et il sait le faire. C'est pour ça que son Saint-Esprit est là dans nos cœurs. Alléluia. Nous lisons donc 2 Timothée chapitre 3, les 5 premiers versets. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Et ici, il y a cette exhortation, cet ordre. Éloigne-toi de ces hommes-là. On dit Amen pour la parole de Dieu. Alléluia. Ici, c'est l'apôtre Paul qui va avoir une révélation des temps de la fin. On est tous, vous serez tous d'accord avec moi pour dire que nous vivons les temps de la fin. On regarde les infos et on voit que au niveau déjà climatique, météorologique, on voit que tout est bouleversé. Je faisais la réflexion encore cette semaine, Henriette. Souvent, quand il arrive un phénomène surnaturel, comme ça, les gens, quand il y a une interview qui est là, ils disent « Mais on n'a jamais vu ça. » Et c'est la réalité des choses. Un feu qu'on n'arrive pas à maîtriser, qui embrase tout. À un moment donné, une vague de froid plus terrible que les autres. Et en fait, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, c'est comme les douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire, les douleurs, elles sont de plus en plus rapprochées et de plus en plus violentes. Et c'est exactement ce que nous vivons. Donc ici, l'apôtre Paul, il va avoir une révélation des temps de la fin. Et il va commencer par dire, sache, il y a ici l'importance. Donc, de ce qu'il va dire, sache, il faut que tu le saches. Il faut que tu le saches, que tu l'imprègnes et puis que tu le communiques. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On est d'accord avec ça? On vit des temps difficiles. Hein. Des temps difficiles. Et là, il va faire toute une liste d'hommes et de femmes avec certaines caractéristiques qui peuvent nous effrayer. On pourrait avoir ce réflexe de se dire... Mais ça s'adresse à des personnes qui ne connaissent pas Dieu. En fait, ici, ça s'adresse à des hommes et des femmes qui ont connu Dieu. Et donc, il y a cet avertissement de la part du Seigneur. Parce qu'il nous aime et Dieu veut absolument rectifier une situation, ça serait tellement dramatique. Un jour, je disais à quelqu'un, il disait, ma sœur, j'étais en train de l'avertir, sa situation, elle n'était pas en règle devant le Seigneur, j'étais en train de l'avertir, et au lieu, vous savez, des fois d'attaquer de front en disant, ta situation, tu dois absolument la régler, dans mon cœur, j'ai dit, écoute-moi, je veux te poser une question, réponds-moi franchement, si je marche dans la rue, et qu'il y a donc un croisement, et que moi, pendant que je marche dans la rue, à un moment donné, je me tourne, et je continue à marcher, donc à marche arrière, et toi, tu me vois, et tu vois un poids lourd, un gros camion, arriver à toute vitesse. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas m'avertir ou pas? Il m'a dit, mais bien sûr que je vais t'avertir. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. En train de t'avertir. Pour éviter qu'on se perde. Tellement d'hommes et de femmes aujourd'hui, qui ont fait une belle confession de foi, il va le dire, hein, l'apôtre Paul, donc une belle confession de foi, et puis qui, à un moment donné, pour des raisons quelconques, se sont éloignés du Seigneur. Ici, l'apôtre Paul, il dit, voilà, catégorie d'hommes et de femmes qui ont connu le Seigneur, et puis qui se sont laissés avoir par quoi? L'égoïsme, être amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis, des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et quand ce tableau nous est dépeint, on se dit, mais quand même, il y va un peu fort. Moi, j'aime la vérité de la parole. Parce que la parole, elle va droit au but, elle nous parle, elle nous dit finalement s'il y a des choses qui ne vont pas. Oui, Dieu nous aime et nous avertit. Si ce matin, cette prédication s'adressait qu'à une seule personne, mais gloire à Dieu, parce que le Seigneur veut rectifier une situation. Donc oui, Dieu nous aime et il nous avertit. Nous avons déjà été avertis, quand on lit la parole de Dieu, on a été avertis par Jésus. Jésus va nous dire dans Matthieu 24, verset 12, « Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. » Et là, on trouve quelque chose qui va prendre place, c'est le refroidissement spirituel. L'amour d'un plus grand nombre se refroidira. On a expérimenté, nous qui sommes passés par la nouvelle naissance, que le Seigneur, quand il s'est révélé à chacun d'entre nous, il a allumé un feu dans notre vie. Et nous sommes bouillants pour le Seigneur. En tout cas, c'est comme ça que ça devrait l'être. Parce qu'on réalise la grandeur du salut qui nous a été accordé. Et il y a une tendance, cette image du feu. Si on n'alimente pas le feu, qu'est-ce qui va se passer naturellement? Il va s'éteindre. C'est tellement logique. Et j'aime beaucoup également la logique de la parole de Dieu qui nous parle au travers d'images. Notre responsabilité, c'est d'être continuellement alimenté par ce feu qui vient d'en haut. Alléluia. Amen. On a eu cette semaine l'occasion de pouvoir être là dans la présence de Dieu, dans la communion fraternelle. Mais c'est également dans des moments où personnel avec le Seigneur, où je m'approche de Dieu et je ne veux absolument pas voir mon cœur refroidi. Ou se refroidir aux choses de Dieu. Il y a quelque chose là qui m'interpelle hein, dans ces fameux ces hommes et ces femmes des temps de la fin. Ils ont dit ingrat. L'ingratitude, c'est quelque chose de terrible. L'ingratitude, c'est de banaliser la vie qui nous a été donnée par Dieu. C'est de se dire, oui, Dieu m'a sauvé, bon, voilà, merci. Et puis on passe à autre chose. Il faut que ça impacte nos cœurs, que ça bouleverse nos vies. Donc ingrat et également insensible. Insensible, on le remarque dans la marche chrétienne, Il y a, au tout début, quand on a été touché par le Seigneur, nos cœurs ont été vivement touchés par sa grâce. Et quand on a été touché, ça nous rend sensibles à la voix de l'Esprit. Nous sommes sensibles. Et puis vient le péché. Et c'est le combat qui est là. Et vous savez ce qui va se passer avec le péché si on ne le combat pas, et le Seigneur nous a donné des armes. Quand la tentation vient, si on n'arrive pas à la surmonter, va venir automatiquement une insensibilité au Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va s'endurcir. On va prendre habitude, et ça c'est le propre de chaque être humain, de pouvoir s'endurcir et de se dire, laissez-moi tranquille, je gère ma vie comme bon me semble. Et aujourd'hui, plus que jamais, on le retrouve ça, un peu partout. Cette façon de gérer sa vie individuellement, hein, dire, ben voilà, je gère ma vie, et puis les conseils, je les prends, et je ne les prends pas. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons écouter, avoir une oreille exercée pour dire, Seigneur, je veux repasser dans mon cœur pour voir si je suis dans une bonne attitude, dans une bonne position. Si après ce partage, vous pouvez dire, voilà, je suis dans cette bonne position, il n'y a aucun souci, mais peut-être que il y a des choses à rectifier également dans ma vie. Alléluia. Les caractéristiques, donc ici, qui ont été présentées, cadrent avec le monde d'aujourd'hui. Et souvent, on aurait tendance d'écouter les prédications et en se disant, alors ça aurait été excellent pour tel frère ou telle sœur qui n'est pas là aujourd'hui, ça aurait pu lui faire tellement de bien. Je ne pense pas que Dieu parle aux absents. Dieu y parle à chacun d'entre nous, et peut-être quand ça sera en ligne, le message sera en ligne, tous ceux qui écouteront ce message, je le crois aussi, évidemment, mais je crois que ce matin, le Seigneur veut nous parler. Et quand le Seigneur veut nous parler, nous devons être attentifs, il n'y a pas 50 solutions. Soit on écoute ce que Dieu dit, soit on continue à s'endurcir. Et là, on prend le risque d'aller droit contre un mur, mais ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on puisse rectifier une certaine situation. Ici, au verset 5, et c'est ce qui m'a attiré dans ces caractéristiques des hommes, des femmes, des temps de la fin, c'est surtout ayant l'apparence de la piété. Et ça, c'est un mal qui est récurrent et qui est terrible. Ou l'apparence de la piété, c'est où, comment s'illusionner soi-même. Au verset 5, il est dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ici, ce verset, on peut le découper en trois parties. Donc, ayant l'apparence de la piété, nous allons voir, reniant ce qui en fait la force. C'est quoi qui fait la force? C'est la question qu'on doit se poser. C'est quoi qui fait la force, alors? Puisque c'est ceux qui ont l'apparence de la piété renient ce qui en fait la force. On va le voir ensemble. La piété, la définition de la piété, c'est se réfère à la révérence. La révérence par rapport au roi des rois et au seigneur des seigneurs. Il faut qu'il y ait dans mon cœur une attitude de révérence. C'est ça, la piété. Et même révérence, pour que nous puissions le comprendre, c'est la vénération. Vénérer un Dieu extraordinaire. C'est à ce prix-là, hein, c'est ça la piété. Et également au respect. Vénération, respect, révérence. C'est cela, la piété. Déjà, au temps du psalmiste, il y avait un cri dans son cœur, une prière qui va faire remonter au Seigneur. Regardez le psaume 12, verset 1er. Une prière que l'on peut faire pour chacun et chacune d'entre nous. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Alors on voit que cette révélation qu'a pu avoir l'apôtre Paul, ce n'était pas quelque chose de nouveau. Déjà le psalmiste, des siècles auparavant, il a cette révélation dans le temps dans lequel il vivait. Il dit, mais sauve, car les hommes pieux s'en vont. S'ils s'en vont, ça sous-entend qu'ils ont été pieux et qu'ils ne le sont plus. Parce que quand on est pieux, on doit pouvoir rester pieux, cette vénération qu'il y a dans nos cœurs pour notre Seigneur. Les gens de bonne foi ont disparu. Remarquez le Seigneur à travers, le Seigneur le remarquait déjà au travers de la bouche de son serviteur que les hommes pieux disparaissaient. Que Dieu fasse qu'au milieu de nous, des hommes et des femmes pieux et pieuses restent toujours dans la présence du Seigneur avec cet objectif de devenir encore meilleur. Alléluia. On a parlé de l'apparence de la piété. Finalement, qu'est-ce que l'apparence de la piété? L'apparence de la piété, ben on le retrouve dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 29 et le verset 13. Voilà ce que c'est que l'apparence de la piété. Concrètement, c'est le Seigneur qui parle et qui dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur, et c'est là où tout se passe, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Et c'est pour cela que finalement, quand on réalise que le Seigneur a mis dans le cœur de Jonathan de bouleverser finalement le fonctionnement du culte que l'on a, le déroulement du culte que l'on a d'habitude, pour justement éviter qu'il y ait ces fameuses traditions humaines, mais que nous soyons constamment renouvelés. Si j'avais posé la question ce matin, pourquoi vous vous êtes levé et vous avez décidé de vous faire beau, parce que là vous êtes magnifique, j'ai une image extraordinaire. Pour quelle raison je suis venu ici dans l'église de notre Seigneur? Alors j'entends adorer, c'est une bonne chose et on l'a fait. Intercéder, on l'a fait tout à l'heure. Mais dites-moi, ces choses-là, on ne peut pas le faire à la maison? Mais bien sûr que oui. Donc finalement, ce n'est pas l'élément essentiel. L'élément essentiel, c'est d'être dans la communion fraternelle. C'est être ensemble, former un seul cœur et une seule voix pour implorer la grâce de notre Seigneur. Alléluia. Surtout, que nous puissions prendre ce verset comme un avertissement. Ce peuple, quand il s'approche de moi, il m'honore de la bouche, de sa bouche et de ses lèvres. Que surtout, ce ne soit pas quelque chose de superficiel, mais que nous puissions y mettre tout notre cœur. Si, pendant qu'on est dans la louange, on pense, nos pensées sont orientées vers, alors je le dis avec une forme d'humour, le poulet qui est dans le four en train de cuire, la journée que je vais avoir demain, les soucis qui m'accablent, ça c'est un peu plus délicat à pouvoir se défaire. Mais il y a une réaction que le Seigneur veut trouver dans nos cœurs, cette réaction de nous tourner vers lui. Parce qu'on est bombardé, on le sait, on marche à contre-courant, l'ennemi a juré notre perte, il sait comment s'y prendre avec chacun d'entre nous, pour que nous gardions finalement une certaine forme de piété. Mais le Seigneur, donc, ce qu'il désire, c'est que notre cœur soit pleinement impliqué quand je m'approche de Dieu, et que surtout, je ne sois pas dans le pilotage automatique, mais que tous les jours, je repasse les bontés de l'Éternel. Encore ce matin, je réfléchissais tout seul dans mon culte personnel, j'ai dit, Seigneur, combien de tes bontés sont grandes. Elles sont tellement merveilleuses. Il y a celles que je vois, dont je me souviens. Et puis il y a celles que je ne vois pas, où le Seigneur me montrera quand je serai là-haut, en me disant, là je t'ai gardé, là j'ai été avec toi. Alors je sais que Dieu est bon. Alléluia. Et comme Dieu est bon, je veux le remercier et le louer pour cela. Qu'il n'y ait pas d'ingratitude, d'insensibilité, mais au contraire, que mon cœur s'attache à lui. Et il dit non seulement, le cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte et tradition humaine. Ici, la crainte, le mot qui est employé, c'est finalement la crainte respectueuse de Dieu. Avoir une attitude respectueuse. Quand je suis dans la présence de Dieu, il doit y avoir automatiquement dans mon cœur cette crainte respectueuse de savoir de qui je m'approche. Je m'approche d'un Dieu tellement grand. Quand je lis dans l'Ancien Testament qu'on ne s'approchait pas de Dieu assez facilement. Une seule fois dans l'année, le souverain sacrificateur, il venait donc dans la présence de Dieu pour expier le péché, les péchés du peuple. Et le Seigneur, quand il a expiré ici-bas sur terre, et c'est la Bible qui le dit, quand il a expiré, phénomène surnaturel, et le voile du temple s'est déchiré. Et nous avons ce libre accès de pouvoir rentrer dans la présence de notre Seigneur. Et ça crée en nous une crainte respectueuse. Et pour cela, je dois m'arrêter et me dire, mais j'ai un privilège qui est immense. Que nous puissions et continuer à réaliser que ces choses sont pour nous. Une autre version d'Ésaïe 29:13 que j'ai lue nous dit « Le culte qui me rende n'est qu'une leçon apprise des hommes. » Vous avez remarqué que quand on est nouveau converti dans notre vie au Seigneur, on adopte assez rapidement un langage chrétien. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur. Je prie pour toi. Il y a un langage qui est là. Mais si c'est simplement dit que du bout des lèvres, est-ce que ça compte? C'est dans nos cœurs que cela doit se passer. Et là, le Seigneur il dit, mais le culte qu'ils me rendent n'est qu'une leçon apprise des hommes. Nous, ce que nous voulons, en tout cas ce que je désire, et c'est sûr, la plupart d'entre nous, c'est que nous voulons apprendre encore en cette année 2025 de Dieu. Apprendre directement de lui et que nous soyons sensibles à la voix de notre Seigneur. Nous remarquons que la dévotion de ces hommes n'était qu'une simple façade. Leurs prières, leurs chants, leurs sacrifices, leurs offrandes ne pouvaient tromper Dieu. On peut tromper des hommes. On peut en mettre plein la vue. Je pourrais vous citer plein d'exemples de personnes qui étaient là, dans la présence de Dieu, dans un culte, en train de lever les mains. Et si on regardait avec un œil extérieur, on disait « Waouh, quelle belle louange, des belles paroles !» Pendant qu'il a, je pense notamment à quelqu'un, qu'elle a porté cette louange, qui était extraordinaire, point de vue humain, il y avait des choses dans son cœur qui étaient terribles, terribles et abominables, même, comme quoi on peut tromper. Et là, ça m'a servi de leçon. Ça m'a servi de leçon pour dire, je ne veux pas m'attacher aux apparences, mais que le Seigneur puisse me communiquer par le Saint-Esprit réellement, d'être dans sa présence. La piété, on remarque que cette piété, cette dévotion par rapport au Seigneur, c'est quelque chose d'important, on l'a vu. Mais quand il y a le manque de piété, c'est manifesté par le manque de ferveur, le manque de bouillonnement. Alors souvent, on va opposer à cela en disant, mais pasteur, c'est mon caractère. Alors des fois, bien sûr, le caractère un peu plus réservé. Mais moi, j'ai remarqué également qu'il y a, pour ceux qui nous intéressent ou par ceux que nous sommes passionnés, il y a un certain zèle, un certain bouillonnement. Alors tout n'est pas mauvais quand je dis ça. Mais la priorité, le zèle, la ferveur, le bouillonnement doit être pour le Seigneur, passionné de son œuvre, passionné de son Église, et que le Seigneur nous aide vraiment à réaliser donc ces choses-là. Quand il y a le manque de piété, on le retrouve, il y a des reproches qui sont faits par le Seigneur Jésus à l'Église de Laodicée, vous vous rappelez ? Je sais que tu passes, tu as des bonnes choses finalement, c'est comme ça que le Seigneur le résume. Il y a des bonnes choses chez toi, mais ce que j'ai contre toi, ces mots sont forts. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. L'amour doit pouvoir être renouvelé, sans cesse, je dirais tous les jours, surtout. Ne vous contentez plus de la bénédiction d'hier. On remercie Dieu, ça c'est la gratitude, pour ce qu'il nous a donné. Mais je veux m'emparer aujourd'hui des bénédictions que le Seigneur a en réserve pour moi. C'est ça, c'est ce qui renouvelle finalement cette ferveur. Alléluia. Il y a une image du manque de piété, c'est quand c'est comme un arbre où au printemps il y a de jolies fleurs qui augurent d'une récolte abondante. Et puis, quand c'est le temps de la récolte, il n'y a pas de fruits. C'est ça, le manque de piété. C'est déjà arrivé. Vous vous rappelez ce qu'a fait Jésus quand il a voulu manger des figues et qu'il n'en a pas trouvé? Vous vous souvenez? Il a maudit l'arbre. C'est pas fort, ça? Le Seigneur ne s'arrange pas avec certaines choses. Il nous dit les choses telles qu'elles sont. Parce que le Seigneur s'attend à ce que on puisse produire un fruit et la particularité, un fruit surnaturel. Parce que si on prend l'histoire, et certains spécialistes, au moment où Jésus donc parlait de fruits, ce n'était pas la saison des figues. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire qu'on doit en tout temps apporter ce fruit surnaturel qui nous vient d'en haut. Je vous promets que s'il y a quelqu'un qui compte sur ses propres forces, on n'ira pas loin. Le fruit que nous portons, le Seigneur nous a, il a mis une graine dans notre cœur afin que nous puissions demeurer fermes et que ce fruit, à un moment donné, il puisse se voir. Alléluia. L'apparence de la piété, je le dis comme ça, ne sert pas à la cause de Christ, évidemment, puisque rien n'est réellement fait pour la gloire de son nom. Et aujourd'hui, plus que jamais, on le voit également. C'est fait pour le contentement personnel. Vous avez remarqué certaines prédications qui brossent dans le sens du poil. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. C'est justement si on a une prédication qui est là pour nous relever, pour nous dire, voilà, ne te décourage pas, va de l'avant. Mais quand les prédications sont qu'orientées que dans ce sens-là, ben finalement, ce n'est pas trop la parole de Dieu, parce que c'est pour flatter l'ego. Moi, je veux que ma vie serve à glorifier mon Seigneur et mon Sauveur. Alléluia. Et si on a cette attitude-là, alors le Seigneur pourra nous utiliser puissamment. Il pourra nous utiliser de façon extraordinaire. D'ailleurs, la Bible dit qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Dites-moi. Pour les spécialistes, tous ceux qui ont un jardin, alors ce n'est pas mon cas, mais alors pas du tout. J'ai déjà essayé, mais ça ne marche pas. Quand on veut avoir un potager, essayer de planter, je ne sais pas, des tomates. Si on plante des tomates, vous vous attendez à récolter quoi? C'est aussi simple. Eh oui, si dans notre vie, nous ne sommes pas fortement ancrés, s'il n'y a pas ce fruit qui se développe dans nos vies, alors ce n'est pas à la gloire de Dieu. Et le Seigneur, donc, il connaît, il va reconnaître l'arbre à ses fruits, disait le Seigneur, c'est dans Matthieu 12, 33. Faut-il encore que l'arbre porte du fruit? Regardez Matthieu 3, verset 10. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, vous lisez avec moi le verset, il sera coupé, jeté au feu. Ce n'est pas une option, là. Je ne porte pas de fruits, peut-être qu'un jour j'en porterai. Il faut qu'il y ait vraiment ce désir d'en porter. Seigneur, je veux porter ce fruit. Il dit déjà la cognée est mise, ce qui sous-entend l'urgence de la situation. La hache est là, prêt à donner le coup à la racine des arbres. Donc tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Mais on sait que Dieu use de patience. Et souvent nous avons juste réduit le verset que je vais lire. Le suivant, c'est 2 Pierre chapitre 3 verset 9. On l'a réduit simplement pour tous ceux et celles qui sont perdus. Évidemment, ça peut convenir. Mais c'est également pour chacun d'entre nous, pour rectifier une situation. Dieu use de patience. Pourquoi? Parce que quand il y a l'apparence de la piété, ce qui peut nous éloigner du Seigneur, Dieu veut trouver en chacun d'entre nous de la repentance pour qu'on reprenne les choses en main. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Hier, on le disait, la repentance, c'est réaliser que nous sommes dans un état qui n'est pas, dans une situation qui n'est pas à la gloire de Dieu. On se reprend, on demande pardon au Seigneur, le Seigneur accepte de nous pardonner et on repart. C'est ce qui est arrivé avec justement l'apôtre Pierre. Pierre, il a renié Jésus. Le même Pierre, rempli du Saint-Esprit, quelque temps après, il prêche, 3000 personnes se convertissent. Qu'est-ce qui a changé ? C'est qu'il s'est repenti de son état. Et le Seigneur, il connaît nos luttes, il connaît nos défaillances, il connaît nos faiblesses. Il ne sera jamais là pour nous taper dessus. Il sera toujours là pour rectifier la situation. Et Pierre a accepté le pardon que Dieu lui accordait. Regardez la différence avec Judas. Il a eu un regret. Le regret ne l'a pas sauvé. Il a pris nos cordes, il est allé se prendre. Vous voyez la différence entre le regret et la repentance. Donc Dieu use de patience envers chacun d'entre nous et la motivation du Seigneur. Et là, on voit l'amour, on découvre l'amour du Seigneur. Il ne voulant qu'aucun ne périsse. Nous tous qui sommes là ce matin, la volonté de Dieu, c'est qu'aucun ne périsse. Et peut-être qu'il y a besoin, quelqu'un, de donner sa vie au Seigneur, là, maintenant, ce matin, dans une attitude de cœur. Peut-être quelqu'un qui a besoin de rectifier certaines choses dans sa vie, de réformer un état de cœur, un état d'esprit. Et pour nous, qui avons fait ces choses-là, de garder fidèlement la réalité de ces choses. Alléluia. Mais Dieu, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le danger de l'apparence de la piété, vous savez ce que c'est ? Quand il y a l'apparence de la piété, c'est se tromper soi-même. On pense être sur le bon chemin, puis on se trompe complètement. Cette semaine, je pensais, ça me faisait penser à une situation, hein, je ne sais plus, je devais avoir 14 ou 15 ans, hein, ce qui veut dire que c'était au siècle dernier. Et donc, on faisait un sport, voilà, et on était parti avec un groupe courir dans la garrigue. Vous savez, quand la saison commence, on part dans la garrigue, puis à un moment donné, moi, j'ai toujours aimé courir. Bon, mais ça, c'était avant. J'ai toujours aimé courir, et puis je suis parti. On m'avait dit, tu prends là, juste après, tu prends à gauche, puis je m'étais complètement perdu. Je vous promets que quand je courais, je pensais être sur le bon chemin. J'étais sincère. Je ne savais pas que plus j'avançais, plus je m'éloignais du trajet. Jusqu'à un moment donné où je me suis dit, bon là, ça fait 45 minutes que je cours, il doit y avoir un souci. Et donc je ne pouvais pas faire marche arrière, et puis bon, j'ai continué, et puis les autres ils étaient en panique, presque à appeler les secours pour dire on a perdu quelqu'un. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que des fois on peut être dans la sincérité, même dans la légèreté, en train de courir et se tromper de destination. Le danger donc c'est l'apparence de la piété, le danger, c'est de se tromper soi-même. Les pratiques extérieures n'ont jamais impressionné le Seigneur. Regardez Matthieu chapitre 7, versets 22 et 23. Quand je lis ces deux versets, ça me reprend toujours. Seigneur, garde-moi, Seigneur, s'il te plaît. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Réponse du Seigneur. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Terrible. Certaines personnes étaient persuadées qu'ils étaient sur le bon chemin et pour eux, ce qui était le plus important, c'était de prophétiser. On l'a lu ensemble. Hein. Chasser les démons. Faire beaucoup de miracles. C'était ces trois choses, en faisant ces choses-là, ça y est, on est agréable à Dieu, on est sur le bon chemin. Réponse du Seigneur, je ne vous ai jamais connu. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire, j'ai jamais eu de relation avec toi. J'ai jamais eu de relation personnelle avec toi. Tu ne m'as jamais laissé toute la place dans ton cœur. C'est ce que veut dire ce verset. Alors ça va pouvoir venir nous bousculer quand même un peu, disant, Seigneur, je veux avoir cette relation de cœur à cœur avec toi. Parce que tu es le Dieu merveilleux qui s'est donné pour moi, pour ma vie. Tu m'as racheté de la vaine manière de vivre. Je veux repasser ces choses dans mon cœur et glorifier ton nom. Alléluia. Amen. Avoir cette relation tous les jours. Vous savez, s'approcher, je l'ai dit tout à l'heure, hein, s'approcher de Dieu, c'est un privilège que nous avons. Que personne ne se prive de cela. Alors, évidemment, si un jour, par des circonstances, je ne sais pas, ça peut arriver, occasionnellement, si vous oubliez de prier, le Seigneur ne vous en voudra pas. C'est le contraire qui est un souci. C'est quand j'ai besoin de Dieu, je m'approche de lui, « Seigneur, tu vois mon problème, ma difficulté, et presque avec arrogance, agis maintenant. » Des fois, il y a des attitudes comme ça. Et c'est ça, je ne vous ai pas connu. Que Dieu fasse que dans cette nouvelle année, nous soyons connus de la part du Seigneur. Et comme Dieu a pu le dire au diable, « As-tu vu mon serviteur Job ? Est-ce que tu l'as vu ?» Ça, c'est un homme de Dieu. En fait, c'est ça, hein. Je le traduis. Hein. Que nous puissions rendre fiers notre Dieu. Alléluia. Par notre marche. Et ne surtout plus s'apitoyer ou vivre pauvrement. Alors que nous sommes des fils et des filles du roi. Nous ne sommes pas n'importe qui. Hein. Il y a le sang de Christ qui nous a rachetés. Nous lui appartenons. Il a fait de nous des seigneurs. Est-ce que vous savez que vous êtes des seigneurs? Parce qu'il est dit qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est nous les seigneurs des seigneurs. C'est nous. On est seigneurs. Et cela peut se faire simplement quand on donne toute notre vie au Seigneur. Alléluia. Que lui seul soit glorifié. Alors, nous voulons plaire au Seigneur, c'est ça là, ce matin le message finalement, c'est de plaire au Seigneur, qu'il n'y ait pas cette apparence de piété, mais nous voulons marcher dans l'obéissance et la sanctification, alléluia. La piété, c'est l'élément vital pour plaire à Dieu. L'impiété est synonyme de manque de respect et de mépris, on l'a vu. Pour cela, nous devons examiner ce qui est agréable à Dieu, Éphésiens chapitre 5, verset 10. Examiner, c'est-à-dire regarder minutieusement ce qui est agréable à Dieu. Pour trouver ce qui est agréable à Dieu, vous lirez cette semaine, hein, donc c'est le devoir, Proverbe chapitre 6. Il y a des choses que Dieu aime, puis il y en a d'autres que Dieu est. H-A-I. Examiner ce qui est agréable à Dieu. Et celui qui n'est pas dans l'apparence de la piété, son but, sa vie, c'est qu'elle plaise au Seigneur. Et pour cela, marcher dans l'obéissance. Colossiens 1, chapitre 10. Pour marcher d'une manière digne qui honore notre Seigneur, une manière digne du Seigneur, et lui être entièrement agréable, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Alléluia. Au plus j'avance avec le Seigneur, au plus j'ai cette sensation, évidemment, on grandit, on progresse, que finalement le Seigneur est inaccessible, hein, quand on le réalise avec notre regard humain. Mais avec le Saint-Esprit, alléluia, on réalise que le Seigneur est bon, il se laisse découvrir certaines facettes qu'on ne connaissait pas. Le Seigneur, il n'a pas fini avec chacun d'entre nous. Alléluia. Donc, examiner, marcher dans l'obéissance, hein, on l'a vu avec Colossiens chapitre 1, et également dans la sanctification. Pourquoi ? Regardez l'importance de la sanctification. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous. Un chrétien n'est jamais en guerre avec qui que ce soit. Hein. S'il y a la guerre, il faut faire la paix. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et certains pourraient dire, mais on pourra s'arranger avec le Seigneur. S'il n'y a pas de sanctification, personne ne verra le Seigneur. Je crois que chacun d'entre nous, ce que nous voulons, c'est voir le Seigneur. dans notre cœur. Alléluia. Amen. Pour cela, on doit s'exercer à la piété. On sait que la piété, c'est un exercice. Souvent, on a tendance à l'oublier. Vous pourrez lire également 1 Timothée chapitre 4, verset 7. Exerce-toi, va dire l'apôtre Paul à Timothée, exerce-toi à la piété. C'est un exercice. Quand on fait un peu de sport, hein, il faut qu'on s'exerce, il faut qu'il y ait des exercices. C'est exactement pareil. Exerce-toi. Ensuite, il dit dans un autre verset, 1 Timothée 6, 20, garde le dépôt. C'est la base de la piété, c'est garder ce dépôt. C'est notre responsabilité. Et tout cela, c'est l'antidote à l'apparence. Également, éviter certains discours vains et profanes. Repousser certaines choses. Et rechercher la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. On a vu ici que le Seigneur ne peut pas tolérer, évidemment, ceux qui auront l'apparence de la piété, prêts à en renier ce qui en fait la force. La piété ne peut se maintenir forte que dans le renoncement de soi. Et c'est ça ce qui fait la force. La force de la parole de Dieu, la force de l'évangile, le Seigneur vient pour nous dire, il faut que tu renonces à toi. Vous n'en êtes pas sûr? Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Renoncer, le renoncement de soi, n'est pas l'affaire d'un seul jour. C'est tous les jours que je dois renoncer à moi, à ma chair. Et finalement, le combat, il est là. On a vu certains, à un moment donné, ils voulaient chasser tous les démons de la terre. Et puis finalement, ils n'avaient pas compris qu'il y avait un combat spirituel dans la chair. Ça ne veut pas dire que les démons ne sont pas là, qu'il ne faut pas les chasser, hein, vous comprenez, hein. Renoncer, c'est l'affaire de tous les jours. Renoncer, il y a trois choses à faire au travers de ce verset. Renoncer, se charger et le suivre. Se charger de sa croix, c'est pas mon voisin, c'est pas mon frère, c'est pas celui avec qui j'ai des affinités qui va se charger de sa croix pour moi. C'est chacun individuellement et suivre le Seigneur. Il y a toujours... quand j'arrive à la lecture de cet épisode de Lévi, hein, qui va devenir Matthieu, où le Seigneur, donc, il dit, le Seigneur vit Lévi qui était là, donc, et qui était péager, il lui dit, suis-moi, le verset dit, il se leva et le suivit. Des fois, c'est aussi simple que ça. Il se leva et le suivit. Mais qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'il avait une révélation de qui était Jésus, et que c'était lui qu'il fallait suivre absolument. Ça sous-entend, évidemment, la Bible ne le dit pas, qu'il y avait une recherche dans son cœur à découvrir la vérité. Il a la révélation pour dire, ben, c'est lui, en fait, que tu dois suivre. Il laisse tout, il renonce, et il suit Jésus. C'est à ce prix-là qu'est notre marche chrétienne. Alléluia. Le renoncement à soi, alléluia. Est-ce que le Seigneur veut nous garder comme ça, peut-être, je ne sais pas, dans la misère, ou je sais pas quoi d'autre? Non. Le Seigneur veut qu'on puisse renoncer aux choses qui pourraient nous éloigner de lui. Et ce matin, la question, elle est celle-ci. Es-tu prêt à renoncer à toi, à ton ego? C'est lui qui te mène ou c'est l'être régénéré? Celui qui est né de nouveau, hein, parler de combat. Renoncer, le renoncement, c'est se dissocier. C'est le mot, j'ai cherché le mot dans le sens original. Renoncer, c'est se dissocier. C'est un reniement intentionnel. C'est une intention de ma part. Je veux renoncer. Une décision. Et également, le sens du mot, c'est un abandon. Abandonner quelque chose, c'est quelque chose que l'on fait consciencieusement, on est conscient de ça. Je veux abandonner ces choses-là, cette chair qui m'accable et qui m'éloigne loin du Seigneur. Colossiens encore, chapitre 3, versets 8 et 9. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Alors à quoi? J'aime beaucoup la parole, elle est concrète. À quoi? À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. C'est ce que je suis en train de vous dire. Alléluia. Renoncer à quelque chose n'est jamais facile. Mais Jésus nous appelle parce qu'il a des meilleurs projets pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et quand on se dépouille, c'est cette image-là, ce qui est de la chair, le Seigneur ne va pas nous laisser comme ça. Il nous revêt. Alléluia. Et quelqu'un qui est revêtu, là, tout à l'heure on a chanté hein, sur l'onction, il y a une onction particulière sur sa vie. Le Seigneur l'utilise puissamment. Alléluia, et ça c'est tellement merveilleux. Amen. Se charger, c'est accepter de perdre peu à peu sa vie d'une manière qui peut être injuste, même des fois. Ça peut être injuste, c'est-à-dire, mais c'est complètement injuste, peut-être, je ne sais pas, lever le poing. Injuste et douloureuse, mais si on le fait, se charger de sa croix. Quand Jésus dit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix, il savait très bien de quoi il parlait. Il savait très bien qu'il allait aller à la croix et ce qu'il allait subir. D'ailleurs, ça va lui procurer, hein, vous vous rappelez, hein, à un moment donné, dans le jardin, tellement il va prier avec intensité qu'il va y avoir du sang qui va couler de son front. Parce qu'il y avait quand même ce poids, il portait le poids des péchés de la terre entière, c'est-à-dire le poids de nos péchés. Donc quand Jésus dit ça, il sait de quoi il parle. Et vous savez, quand on porte notre croix, quand on est crucifié avec Christ, c'est rarement moi qui me donne le dernier clou pour que je sois crucifié. Ça sera toujours quelqu'un d'autre. Et le Seigneur veut qu'on puisse crucifier un état d'esprit, une façon de penser qui n'est pas à la gloire du Seigneur. Et souvent, et je l'ai expérimenté, sûrement vous aussi, hein, le Seigneur va utiliser un frère, une sœur, pour faire ressortir quelque chose qu'il y a enfoui au fond de notre cœur, afin que le Seigneur puisse l'éradiquer complètement, pour que nous soyons rendus libres, pour pas que ces choses et une attache dans nos vies. La force de la piété, c'est quoi finalement? C'est l'authenticité. Soyons des chrétiens, des chrétiennes authentiques. Un chrétien authentique, c'est finalement le résultat d'un miracle. C'est un miracle, alléluia. Il est né de nouveau par l'Esprit Saint. C'est la transformation, on est transformé. S'il n'y a pas de transformation dans nos vies, si les personnes que l'on côtoie ne voient pas de transformation, c'est qu'on n'est pas né de nouveau. Parce que c'est une transformation, être né de nouveau. Sa réalité se vérifiera. Comment? Dans l'adéquation de nos paroles et de nos actes. Parce que dire qu'on aime, c'est une chose, hein, les actes. La force de la piété, ce sont finalement les attributs d'un vrai chrétien. Galates chapitre 5, verset 22, voilà les attributs. L'écartier du fruit de l'esprit, parce que c'est un fruit découpé en quartiers, et il y en a 9. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la tempérance. On discutait avec Henriette, hein, on discute beaucoup, hein, et sur la tempérance. Et je lui disais souvent... Quand on parle de tempérance, on parle de réguler un caractère qui est trop fort pour le ramener donc à un caractère doux. C'est vrai, c'est la réalité. Mais quand on parle de tempérance aussi, on parle de quelqu'un qui a un caractère effacé, un caractère timide, qui a besoin, lui, de s'élever. Et je n'ai pas beaucoup entendu parler, quand on parle de tempérance et de maîtrise de soi, de ce côté-là. Un caractère effacé, mais timide. La Bible nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. La piété, quand elle est là, souligne l'attachement ferme que l'on a à Dieu et au devoir qui incombe à son service. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de chômage dans le peuple de Dieu? Alors la question suivante, c'est celle-là. Si on est né de nouveau, vous êtes dans quel service? C'est ça, hein? Si on n'est pas dans un service, c'est une anomalie. On doit pouvoir servir le Seigneur à tous les niveaux, hein, et à tout âge. On peut prier, on peut intercéder, voilà. Donc quand je parle d'authenticité, je parle de vrai chrétien. Un vrai chrétien, c'est une personne qui est libre. J'ai même pas eu un seul amen, mais bon, je poursuis quand même. Un vrai chrétien vit selon la parole de Dieu et sa volonté. Ah, merci. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui est désintéressé. Il ne fait pas ces choses-là pour gagner quelque chose. Ce n'est pas les œuvres qui sauvent. Mais c'est parce que le Seigneur, il a fait quelque chose de merveilleux. Un vrai chrétien, il se développe, il grandit constamment. Alléluia. Amen. Je termine avec cette authenticité. Un vrai chrétien, Apocalypse chapitre 20, verset 12. Apocalypse 20, verset 12. Je l'ai entendu ce matin dans une prière. Ça réjouit mon cœur. Dire, voilà, le Seigneur veut parler encore ce matin. Il dit, « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Tout ça pour dire que s'il y a l'apparence de la piété, on l'a vu hein, ensemble, alors nos noms, notre nom n'est pas inscrit sur le livre de vie. La question elle est celle-ci. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Si c'est le cas, on doit glorifier le Seigneur. On doit bondir et dire, Seigneur, je te remercie pour cette occasion. Si ce n'est pas le cas, ce matin, dans une prière sincère de nos cœurs, on peut dire, Seigneur, sauve-moi, j'ai besoin de toi. Je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Je reconnais que je suis un pécheur et je te donne ma vie. Si vous faites cette prière, la Bible nous dit qu'à partir de ce moment-là, vous devenez enfant de Dieu. Alors, que nous soyons des chrétiens, des hommes, des femmes, des disciples authentiques. Et l'authenticité, ça se reconnaît à tous les niveaux. Alléluia. Je prie que cette parole soit une parole décisive pour quelqu'un et qu'il y ait, après cela, un avant, un après, un changement, un bouleversement dans les vies. C'est avec ça que, avec cette conviction dans mon cœur que j'ai pu vous apporter la parole ce matin. Que Dieu soit béni. On prie le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci encore pour ta parole. Seigneur, merci parce que ton esprit est là. Et Seigneur mon Dieu, tu m'as aidé à apporter cette parole. Seigneur mon Dieu, et nous ne voulons pas que ce soit comme un coup d'épée dans l'eau, mais que, Seigneur mon Dieu, ta parole atteigne les cœurs. Que plusieurs puissent se laisser reprendre. Qu'il n'y ait pas des cœurs endurcis, insensible, ingrat, irreligieux, blasphémateur, fanfaron, hautain. Mais Seigneur, qu'il y ait en chacun d'entre nous vraiment ce qui fait la force de la piété, cette authenticité, celui qui renonce à la chair, celui qui se donne complètement à toi. Seigneur, je te prie peut-être pour quelqu'un qui a besoin de rectifier sa vie, sa situation, Seigneur. Que tu puisses travailler, Seigneur, son cœur à salut. Que tu puisses travailler jusqu'à ce qu'il y ait une capitulation. Seigneur, tu reviens bientôt. Et ce qui est très important, c'est que nos noms soient inscrits dans ton livre, Seigneur. Nous te remercions parce que ta parole, elle ne retourne pas à toi sans avoir produit l'effet escompté. Je te remercie pour cela. Je le crois de tout mon cœur que ce matin encore, tu as agi et tu t'es glorifié. À toi la gloire, l'honneur. que ton nom soit béni. Merci, ô notre Dieu. Amen. Alléluia.